Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovan.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Ça y est, c'est la dernière émission de cette quatrième saison. Mais rassurez-vous, on vous accompagnera encore l'année prochaine puisqu'on sera de retour le 22 août pour une cinquième saison. D'ici là, je vous invite bien sûr à nous appeler pendant cette prochaine heure si vous voulez être éclairé sur l'évolution de votre situation personnelle à l'avenir. 0826 300 300, notre coach et médium Alexandre Delovan répondra à toutes vos questions en vous donnant son ressenti sur votre avenir. Bonjour Alexandre.
Bonjour Trina, bonjour à tous.
Comment allez-vous aujourd'hui ?
Je vais bien, merci.
Bon, ça vous fait pas quelque chose, non ?
Non, ça va, non, parce que je sais que au retour de cette nouvelle, enfin pour cette nouvelle saison, c'est demain quoi. Enfin,
vous revenez demain, voilà. Vous, si vous voulez, écoutez.
J'en perds mes mots, vous voyez.
Tout à l'heure, avant la rubrique du jour, on vous emmènera à Los Angeles, plus précisément au Cecil Hotel, l'hôtel le plus hanté du monde. Ce sera dans une quinzaine de minutes, donc restez bien avec nous, croyez-moi, ça vaut le détour. Allez, on démarre avec Patricia. Bonjour Patricia.
Bonjour, bonjour à toute l'équipe.
Bienvenue Patricia, bonjour. Vous nous appelez d'où ?
De la région Aquitaine.
Très bien, alors votre fils a changé depuis qu'il est avec sa compagne, c'est ça ?
Oui, voilà, ça fait 2 ans qu'il est avec sa compagne et il a l'air très heureux, mais il s'éloigne de plus en plus de nous, de sa famille. Mm-hmm. On dirait que sa famille, sa nouvelle famille, eh bien, c'est sa belle famille et on s'inquiète un peu. Et on voudrait savoir aussi, comme il habite chez sa compagne et il y aurait des entités dans la maison, si ça a à voir avec ça ou pas, vu qu'il a été malade il y a quelque temps et quelqu'un lui aurait dit qu'il y a des entités dans la maison et qu'il y en aurait qui seraient accrochées à ses genoux et c'est pour ça qu'il a eu des problèmes aux genoux dernièrement.
Alors, ils sont ensemble depuis combien de temps déjà ?
2 ans à peu près.
Et alors, quand vous dites qu'il a changé, concrètement, au quotidien, comment ça se traduit ? Qu'est-ce qui a changé exactement dans sa manière d'être ?
Ben, c'est-à-dire qu'avant, il donnait très souvent de ses nouvelles. On s'appelait, même si c'est que 30 secondes, on se donnait des nouvelles. Il donnait des nouvelles à son frère. Même son meilleur ami d'enfance... elle ne l'appréciait pas, donc il a décrété de ne plus le voir. Il se coupe de nous, on a l'impression. Et alors son frère me dit qu'il ne l'aime pas, sa compagne. Il me dit qu'elle a une mauvaise influence sur lui. Bon, chose que moi, non, je la trouve très sympathique. Après, je me dis, bon, ben voilà, il est peut-être enfin tombé amoureux. Il faut couper le cordon ombilical, je me dis, peut-être...
Mmh. Voilà. Et vous avez essayé d'en discuter avec lui de tout ça, de lui poser des questions, d'essayer de savoir pourquoi il avait changé ?
Oui, un petit peu, mais c'est pas évident. À chaque fois, il me dit oui, mais j'ai pas le temps, je travaille. Voilà.
Je crois que vous avez un autre fils aussi ?
Oui, oui, oui.
Et comment ça se passe entre eux deux ?
Mais ça va bien, mais justement, il s'éloigne de plus en plus. Il s'appelle presque plus.
Ça aussi, c'est depuis qu'il est avec sa compagne, qu'il s'est éloigné de son frère ?
Oui, oui, depuis qu'il est avec sa compagne. Avant, ils étaient très, très fusionnels aussi ensemble.
D'accord. C'est assez paradoxal, puisque vous dites que vous l'appréciez bien, cette femme.
Ben oui, moi je trouve qu'elle est très sympathique, elle est joviale. Mais son autre frère me dit que quand je ne suis pas là, il me dit qu'elle n'est pas du tout comme ça. Elle a une autre personnalité. Qu'elle cacherait son jeu. Alors, est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas.
D'accord. Alors, bon, Alexandre, oui. Sur le couple, qu'est-ce que vous ressentez ?
Sur le couple, qu'est-ce que je ressens ? Ben, écoutez, en tous les cas, de ce que vous énoncez aujourd'hui, ce sont que des on-dit un petit peu, et pardonnez-moi de parler ainsi, mais il n'y a pas de choses fondées. C'est-à-dire dans le sens où votre fils ne se plaint pas de sa relation, ne se plaint pas du comportement de sa compagne, qu'il n'y a pas, vous-même, vous n'avez pas vu de choses, si vous voulez, ou de comportements difficile avec sa compagne. Donc, c'est un petit peu des on dit, et il y a quelque chose qui s'alimente. Donc, pour moi, de ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas réellement de difficulté, de problème. Ça, c'est mon ressenti, bien entendu. Mais aujourd'hui, votre fils a peut-être effectivement besoin de couper ce cordon ombilical. Il a besoin tout simplement de se réaliser dans sa vie, et peut-être qu'effectivement il y a une influence de la famille, de sa belle famille, où il se sent peut-être plus à l'aise, ou peut-être l'envie de partager d'autres choses qu'il n'aurait peut-être pas pu le faire avec vous. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne vous aime pas, ça ne veut pas dire pour autant qu'il coupe le lien avec vous, mais effectivement son comportement à lui pourrait laisser penser qu'il prend du recul. Pour moi, tout est une question de période, de temps, et je pense que au niveau social et familial, du côté de sa compagne, il n'y a peut-être pas des différences, mais il y a peut-être une autre manière de voir les choses, et c'est ce qui va se différencier avec vous, mais pas vraiment non plus. C'est tout à fait...
Il y a une différence d'un point de vue social avec elle.
C'est-à-dire, non, moi, je ne trouve pas personnellement. Mmh. Ils ont des biens alors que nous, on n'en a pas, mais voilà, c'est tout...
Oui.
Moi, j'aime beaucoup sa famille. C'est des gens très sympathiques.
Je vais être très sincère avec vous. Il ne faut pas se monter la tête. Parce qu'effectivement, votre fils, peut-être qu'il n'aborde pas les bonnes attitudes envers vous. Il n'est peut-être pas suffisamment bienveillant, ou peut-être investi, ou il n'est peut-être pas assez généreux dans la relation familiale. Mais c'est aujourd'hui son choix de vie. C'est peut-être... on peut penser que c'est un peu égoïste de le faire ainsi, mais plus tard, il va vraiment prendre conscience que les choses vont évoluer et vont changer, et vouloir aussi faire quelques efforts auprès de la famille. Alors peut-être que effectivement votre belle-fille, elle a des comportements un peu différents, mais tout le monde les a. Quand on est face à sa belle-mère ou à son beau-père, on n'a pas le même comportement quand on est avec des copains, ses parents. Donc c'est peut-être logique, mais aujourd'hui, si vous voulez, je ressens pas quelque chose de marquant ou de quoi que ce soit. Et pour revenir sur les histoires de...
D'entité, justement, j'allais vous poser la question. Oui. Alors, on a une photo de votre maison, d'ailleurs.
Oui, en fait, c'est celle de la compagne.
Dans la maison de la compagne, c'est là que ça se passe.
Ils vivent dans cette maison, oui, qu'elle a héritée, oui.
Qui vous a dit ça, qu'il y avait des entités?
Mais c'est elle, elle a fait venir quelqu'un qui a remarqué qu'il y avait des entités. Et c'est surtout que ça fait plusieurs fois qu'elle me raconte qu'elle entend parfois des voix... dans la maison, mais qu'elle a toujours, même quand elle n'était pas avec Jonathan, elle a toujours ressenti qu'il y avait des présences dans la maison. La maison, elle est très ancienne, c'était une grange avant.
Et votre fils ressent les mêmes choses ou entend les mêmes choses?
Non, lui non, ça lui passe au-dessus.
Alexandre.
Alors là, je vais parler avec mon côté rationnel. Déjà sur les entités sur les genoux, je ne sais pas quel est ce discours-là, mais des entités qui s'approchent aux genoux, sincèrement, c'est un peu à douter, c'est un peu douteux. Et pourtant, je suis dans le milieu, je sais ce que c'est aussi les entités. Ça ne veut pas dire que je n'y crois pas, mais je pense qu'on peut avoir à un moment donné un problème d'entité, mais elle s'approche aux genoux. Donc ça, c'est un discours c'est pas que je valide, mais ça me parle pas, ça me fait pas résonance avec moi. Après, que votre fils soit en réaction avec ce lieu-là, oui, ça c'est possible, parce qu'il y a des endroits où on dort plus ou moins bien, il y a des endroits qui nous correspondent mieux énergétiquement, donc ça c'est tout à fait possible. Et concernant cette maison, effectivement, il y a quelque chose, il y a un petit blocage au niveau de cette maison, mais c'est l'arrière de la maison. C'est-à-dire que là, vous nous avez envoyé une photo avec sa façade avant, si c'est bien ça. Mm-hmm. Et moi, je ressens un blocage vers l'arrière de cette maison où il y a un problème. Alors, c'est peut-être un problème. Est-ce qu'il y a eu auparavant un puits ou une source d'eau, où il y a quelque chose? Après, vous parliez d'une ferme ou d'une grange auparavant. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de marquant? Peut-être que là, ça serait intéressant de voir un petit peu ce qui se passe derrière cette maison.
Vous le savez?
D'accord. Non, je ne suis pas au courant. Je poserai la question à ma belle-fille.
Mm-hmm. D'accord.
Je sais qu'ils ont un chat et il y a parfois, pendant plusieurs jours, il ne veut plus rentrer dans la maison.
Mm-hmm.
Et puis il y a des jours après, il rentre normalement.
Qu'est-ce que vous ressentez à l'arrière de la maison, Alexandre?
Mais, c'est plus chargé énergétiquement. Voilà, énergétiquement, je sens quelque chose de chargé, mais qui peut être lié à l'histoire ancienne ou au terrain. Il faut savoir une chose aussi, c'est que les chats adorent les endroits où il y a du négatif. Mmh. Et donc les chats, généralement, quand il y a une zone de négatif, ils vont justement dans ce lieu-là. Ils ne fuient pas l'endroit.
Ouais.
Et au contraire,
d'accord,
ils vont pour absorber l'énergie négative. C'est le chien qui, lui, va fuir l'endroit négatif. Donc, le fait que le chat ne rentre pas dans... Excusez-moi, j'ai l'impression de vous contrarier aujourd'hui, Patricia.
Non, mais c'est votre ressenti. Bon, j'ai envie de dire, c'est vous l'expert, hein, quand même, de ce côté-là.
Non, c'est pas... Je veux pas me considérer comme l'expert, mais tout au moins, c'est vrai que parfois, on est sur des croyances et dans la réceptivité, la sensibilité de l'animal, le chat, lui, c'est reconnu, hein, qu'il absorbe les énergies négatives.
Et
lui, va aller justement vers des énergies négatives, alors que le chien, non. Donc s'il part 2-3 jours, c'est tout à fait normal, c'est son rythme de vie et c'est sa petite vie.
Donc selon vous, pas d'entité?
Non.
Bon, merci Patricia d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, on vous attend vous aussi, 0826 300 300. Dans un instant, direction le Cécile Hôtel, l'hôtel le plus hanté du monde. Et c'est Claudine qui nous rejoindra. Sa fille a eu un énorme coup de foudre il y a 5 ans pour un homme qu'elle a rencontré au travail. Mais aujourd'hui, leur relation se détériore et la fille de Claudine est de plus en plus triste, quasi éteinte. En plus, lui travaille dans un autre pays et elle souffre aussi de la distance. Elle est donc très inquiète à l'idée que cet homme finisse par la quitter. On en parle dans un instant.
Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour.
Alexandre, pour votre dernière chronique de la saison.
Oui, on va se balader.
Vous nous emmenez au Cécile Hôtel, l'hôtel le plus hanté du monde.
Oui, si vous voulez passer combien de nuits là-bas,
Trina? Aucune.
Aucune?
Non, je n'y vais pas. Même à 3 km autour, je ne m'approche pas.
Alors, bien sûr que je pense que tout le monde ne connaît pas cet hôtel. Cet hôtel a été construit au milieu des années 1920. Le Cécile Hôtel de Los Angeles a connu un nombre impressionnant déjà de suicides ou de morts inexpliquées. Alors, il a désormais la réputation d'être hôtel le plus hanté du monde et son histoire est relativement sanglante. Il est composé de longs couloirs, de chambres lugubres et de bruits étranges aussi. Et certains hôtels font peur parfois malgré eux et apparemment on aurait toujours eu des frissons en passant par la porte d'un de ces bâtiments car on ne sait jamais vraiment ce qu'il se passe entre ces quatre murs. Alors au départ et lors de sa construction au milieu des années 1920, exactement 1924, ce bâtiment majestueux se veut être un lieu luxueux pour touristes et hommes d'affaires de passage dans la cité des anges, Los Angeles bien entendu.
Bah oui.
Et William Banks Hanner, à l'origine de sa construction, veut faire un modèle art déco avec des vitraux, du marbre et des autres matériaux onéreux dans les 700 chambres, c'est pas un petit hôtel, et il aura même investi 100 millions de dollars.
Ah oui.
Pas mal pour cette époque-là,
ah oui, hein,
pour les
effet.
Années 1920. Mais malheureusement, les rêves de grandeur de son fondateur vont rapidement se heurter à la réalité avec la crise économique de 1929. Mmh. Et le quartier au sein duquel se dresse ce fameux Cécile Hôtel ne fait plus rêver personne et devient le terrain de jeu de prostituées et de drogués.
Ah bon?
Ah
d'accord.
Oui. Bon, le décor est un peu plus folklore, on va dire. L'hôtel devient alors malgré tout ça, l'hôtel devient le repère de cette nouvelle population à laquelle s'ajoutent de nombreux sans-abri. Hein, mm-hmm. Quitte à faire, c'est mm-hmm. allons-y. Et en plus de cette réputation sulfureuse, eh bien le Cécile Hôtel fait face à des événements étranges avec les morts nombreuses, souvent donc inexpliquées de ses clients. Et ça a commencé en 1931, un client de l'hôtel est empoisonné. Puis, en 1932, un autre client se tire une balle dans la tête. En 1934, alors vous savez que souvent dans les hôtels, les gens viennent se suicider, hein, soit dans n'importe quel hôtel, mais souvent ça arrive. Mais là, il y a quand même une série d'événements qui sont... Voilà. En 1934, c'est un policier américain qui décide de se trancher la gorge dans le bâtiment.
Oh là là.
Puis, plusieurs clients se défenestrent depuis la chambre de l'hôtel. En 1944, une jeune femme femme, une jeune femme accouche au sein du Cécile Hôtel, puis jette son nouveau-né par la fenêtre. Alors, ce qui est très étrange, c'est qu'à chaque fois, c'est toujours...
C'est les fenêtres.
Oui, et c'est toujours des choses très différentes, des situations, des événements qui sont...
Des dramatiques toujours.
Des drames très différents, oui. Alors, ces drames isolés confèrent rapidement une réputation de ce lieu maudit à ce bâtiment américain. Et si ces anonymes ont ouvert le bal au sein de l'établissement, mais il y a aussi de grands noms de la criminalité qui ont séjourné dans cet hôtel.
Bon,
et notamment dans les années 80, le serial killer Richard Ramirez, il va y séjourner pendant plusieurs semaines. Et il a quand même eu 13 assassinats à son actif, pour vous dire. Après avoir fait l'objet d'une rénovation en 2011, on peut penser que tout s'arrête, que tout devient calme. Eh bien, il y a encore une série de drames, de choses comme ça. Notamment en 2013, le corps d'Elisa Lam est découvert sur le toit de l'établissement dans l'un de ses réservoirs d'eau. Alors, cet hôtel a inspiré Ryan Murphy, le créateur du film que vous connaissez peut-être.
American Horror Story.
Voilà, ouais. Très bien. Et d'ailleurs, il y a eu 5 saisons qui ont été faites dans le cadre de cet hôtel et qui a donné beaucoup d'inspiration.
D'accord. En fait, c'est parce qu'il y a toujours eu des choses dramatiques, des morts violentes. Qu'on peut dire qu'il y a des entités qui restent. Quand il y a des morts violentes, c'est ça. Hein.
Oui, mais on dirait que ça les pousse au pire. C'est-à-dire que...
Comment on explique ça, d'après vous ?
Alors après, là effectivement, ça, je pense qu'il y a une histoire de mémoire, hein, de choses. Déjà, par rapport à son vécu, hein, c'est vu que c'était un lieu où il y avait beaucoup de prostitution, tout ça. Bon, ça ne veut pas dire que dans chaque lieu de prostitution, tout le monde se suicide. Mais là, ce lieu-là a sûrement imprégné une mémoire. Et les personnes qui allaient dans ce lieu ou dans cet endroit avaient souvent, alors forcément, par rapport au nombre de clients qu'il y a eu, c'est peut-être minime, mais malgré tout, c'est quand même des fins de vie qui sont extrêmement tragiques et qui sont, on va dire, inquiétantes ou qui peuvent intriguer. Et puis, on pourrait penser que ça s'est arrêté. Le dernier était en 2013, donc c'est pas très loin.
Oui, c'est sûr. Mais vous, en regardant la photo de cet hôtel, vous ressentez qu'il y a des entités, qu'il est hanté, cet hôtel ?
Alors, bon, c'est très difficile. Qu'il y ait un vécu sur cet hôtel, oui, parce que déjà, il est très beau, il est chargé en histoire et en art déco, il est extrêmement beau. Donc, il parle ne serait-ce que par rapport à ses objets, il y a tout ça, il y a la mémoire. Mais et je pense qu'il faut qu'on y aille ensemble, passer quelques jours, et je vous dirai la suite.
Claudine nous a rejoint. Bonjour Claudine.
Bonjour Trina, bonjour Alexandre.
Bienvenue
bonjour.
Claudine.
Merci de prendre mon appel.
Merci à vous. Vous êtes inquiète pour la relation amoureuse de votre fille, c'est ça ?
Oui, parce que ça fait 5 ans qu'ils vivent une relation à distance. Donc, c'est elle qui avait décidé de partir parce que c'était plus compliqué pour lui de revenir en France. On lui avait promis un poste. Elle a pris des cours pour apprendre la langue. Mm-hmm. Et puis, au moment de déménager, au moment où elle s'apprêtait à partir, on lui a dit que c'est tombé à l'eau. Ce n'était plus possible parce que c'était un poste qui devait se créer et ça n'a plus été possible. Donc... C'est la déception, c'est le questionnement, elle est en plein questionnement parce que d'abord, elle n'a plus 20 ans, elle en a 38. Et puis voilà, il commence à se lasser de cette relation, ils auraient voulu s'installer et puis avoir des projets. Alors voilà ma question, est-ce que ça arrivera quand même un jour ? Est-ce qu'ils arriveront ? Est-ce que ça sera en France ou à l'étranger ? Ou est-ce que par lassitude, ils devront mettre fin à cette relation ?
Mais votre fille est très amoureuse encore aujourd'hui ou vous sentez qu'elle
se
détache ?
Ah oui, ça s'est très bien passé, même pendant la pandémie, ils ont tous réussi à se voir régulièrement. De ce côté-là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci.
D'accord, donc c'est la distance en fait qui vous inquiète.
C'est la distance et puis le travail, quoi. Ils aimeraient être ensemble et elle, c'est compliqué pour son travail de partir là-bas et lui, c'est compliqué aussi pour lui de revenir en France pour l'instant.
Alors, Alexandre, êtes-vous confiant sur l'avenir du couple ?
Eh bien, oui.
Ah, bon.
Eh bien, oui, Claudine. Alors, pour moi, c'est un oui, mais vraiment très direct. Et vraiment, en plus, j'ai vraiment le sentiment que ça va se débloquer très rapidement. Oui, ça va se débloquer rapidement. Alors, je ne vais pas vous dire demain, mais on dirait que dans les mois à venir, il y a un changement, il y a une opportunité qui va se présenter pour eux et ça donnera la possibilité à ce qu'il y ait un rapprochement physique ensemble. Alors, on dirait que ce serait plus lui qui pourrait bénéficier d'un changement, je ne sais pas, par rapport à la configuration des choses ou en tous les cas à sa situation actuelle. Est-ce que ça pourrait être le cas ?
Ah oui, ça pourrait être le cas, parce que c'est vrai que même sa situation là-bas n'est pas, c'est pas définitif, quoi. C'est pas...
D'accord. Alors, effectivement, parce que je pense que s'il y a une démarche et s'il y a un changement dans le fonctionnement du couple, et notamment en rapprochement physique, ça serait plus lui qui viendrait vers votre fille. Ensuite, au niveau du sentiment, bien oui, pour moi, il y a une relation qui est là, qui est soutenue et pas évidente hein, de vivre une relation à distance
oui,
parfois.
Surtout pendant la pandémie.
En plus, voilà.
Et donc, ça fait 5 ans quand même.
Et ça fait 5 ans. Donc, voilà, et je pense qu'il y a un véritable amour, il y a une véritable envie de construire. Je dirais même l'envie peut-être de fonder une petite famille. Donc, il y a des projets qui semblent se mettre en place. Pour moi, ça va dans sa réalisation, ça va dans sa continuité. Vous verrez que sur la période fin d'année, début d'année prochaine, eh bien là, on est peut-être au cœur de ce changement. Et vraiment... vous pouvez peut-être, si votre fille est au courant que vous avez appelé aujourd'hui Sud Radio, ben vous pouvez peut-être la réconforter, l'encourager parce que je sens qu'il y a cette capacité, cette possibilité au changement et surtout que son histoire est amenée à durer et aller vers des hospices meilleurs et positifs.
Bon, écoutez, justement, ce n'est que du positif.
Et oui,
donc c'est très
positif.
Bien. Merci Claudine d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, on vous attend, venez nous rejoindre. 0826 300 300. Comme Alain, il est en couple avec une femme qu'il a rencontrée après son divorce. Au début, tout était parfait, mais depuis qu'ils se sont installés ensemble, ils n'ont plus de relations intimes. D'ailleurs, ils ne partagent quasiment plus rien et Alain refuse de vivre de cette manière. Il a donc besoin des lumières d'Alexandre et ce sera juste après ça.
Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovan.
Et de retour dans C'est votre avenir. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Sud Radio. N'hésitez pas à nous rejoindre pour nous poser toutes vos questions. 0826 300 300. C'est notre coach intuitif Alexandre Delovan qui répond, bien sûr. On retrouve Alain. C'est Alain, oui, c'est ça. Bonjour Alain.
Oui, bonjour. Bonjour.
Bienvenue Alain, vous nous appelez d'où ?
J'appelle de la région de Sète.
D'accord. Alors, vous avez rencontré votre compagne actuelle après votre divorce, donc ?
Oui. Enfin, le divorce n'est pas fait encore, justement.
D'accord.
C'est un peu long. Je n'ai pas de nouvelles de mon avocat. Enfin, c'est un peu compliqué.
D'accord.
Voilà, oui.
Alors, expliquez-nous cette relation, du coup.
Ben, voilà, je suis parti de chez moi. J'ai demandé le divorce il y a à peu près un an et demi. Mm-hmm. Et bon, pour l'instant, ça traîne encore. Et entre-temps, j'ai rencontré donc cette personne avec qui je m'entends super bien. Mais on a plein de points en commun. Mais depuis que j'ai aménagé chez elle, donc ça fait quelques mois, mais c'est le calme plat. Enfin voilà, il se passe plus au niveau intime, il n'y a plus grand chose. Et donc voilà, donc elle me dit qu'elle a pas mal de soucis. Enfin voilà, elle a des parents malades, enfin tout ça. Et voilà, moi je suis un peu perdu, on va dire.
D'accord, que, ça voilà, se passait très bien avant sur ce plan-là ?
Oui.
D'accord.
Oui.
D'accord. Alors, Alexandre, mm-hmm. Est-ce que ça va aller à l'avenir du couple malgré qu'il n'y ait plus de relation intime ?
C'est un peu compliqué. Ah, sincèrement, bon. Alain, je ne veux pas être pessimiste sur votre situation, mais ça me semble un petit peu compliqué. À la fois, je sens que c'est une femme qui se referme un peu sur elle-même. C'est une femme qui aussi a des blessures émotionnelles. Elle n'a pas fait un travail suffisamment sur elle, ou peut-être qu'il y a des choses qu'elle n'a pas su complètement évacuer. Et d'être en contact avec vous. Alors, je ne veux pas dire pour autant que vous le ramenez à ses fragilités ou à ses blessures, mais ça la renvoie inconsciemment à des peurs, à des craintes, à des doutes, à des remises en question, peut-être aussi un problème de stabilité psychologique, hein, je veux dire, chez elle. Et donc, ça me semble fragile et ça me semble difficile. Alors, est-ce que vous communiquez beaucoup avec elle ?
Oui.
Bon, ça,
oui.
Ça, c'est bon.
Justement, elle fait souvent le rapport avec ses ex. Et alors, comme je dis, moi, je suis pas du tout les ex. Donc voilà, c'est assez pénible à chaque fois qu'elle reporte. Et bon, elle me dit que c'est justement que par rapport à eux, que je suis complètement différent. Et
sur quel plan qu'est-ce qu'elle compare avec ses ex?
Qu'elle pouvait pas leur faire confiance, que c'est moi là qui faisait jamais rien pour elle. Voilà.
Ah, elle a eu des déceptions.
Oui, beaucoup de déceptions. Mais donc voilà. Oui.
Oui, mais ce qui est justement, si vous êtes pour elle très différent, il n'y aurait pas de comparaison à avoir avec les ex. C'est là où il y a une fragilité, il y a un problème qu'elle n'a pas réglé de son passé émotionnel et affectif. Et à la fois, même si elle vous considère être une personne qui sort du lot, et tant mieux, mais elle vous fait payer quand même un passif et quelque chose d'assez difficile, de lourd pour vous et pour elle aussi, parce que ça engendre des difficultés, des fragilités et puis aussi un éloignement de la relation jusqu'à ce qu'à un moment donné on puisse penser à une éventuelle rupture. Alors vraiment ce qui pourrait peut-être, et ça c'est déjà très bien quand vous dites que vous avez une communication ensemble, donc ça c'est bien, mais ce qui pourrait peut-être l'aider, c'est de l'amener à se faire peut-être accompagner au travers d'une thérapie pour qu'elle puisse régler son passif et qu'elle puisse repartir avec plus de confiance sur l'avenir, avec l'envie aussi d'ouvrir son cœur et de se laisser aller, parce qu'elle ne fait pas de lâcher prise, elle ne fait pas de si vous voulez, elle est sur la retenue et elle se lâche pas. Voilà.
Oui, tout le temps.
Et oui. Et c'est pour ça que, si vous voulez, pour moi, la relation, elle reste figée et elle reste bloquée. Alors, aujourd'hui, il y a encore un peu de ressources, donc ça va. Mais combien de temps ça va durer ?
Et c'est ça la question.
Et voilà, combien de temps ? Donc, parce que vous êtes aussi un homme, vous avez besoin de vibrer, vous avez besoin d'émotions, puis surtout dans un démarrage d'histoire. Si on démarre avec des failles ou des faiblesses comme ça, ça veut dire que l'avenir promet autre chose. Donc, ça risque d'être compliqué. Allez, vous pensez à votre devenir sentimental et vous me donnez une couleur, s'il vous plaît.
Le rouge.
Un rouge. Alors, effectivement, je pense qu'ensemble, il faut mettre en place des choses. C'est-à-dire que au-delà de l'aspect psychologique, il y a peut-être de l'amener vers un accompagnement, de se faire aider, mais aussi sur le lieu de vie, c'est-à-dire que d'apporter des objectifs ou des projets qui vont permettre d'aller vers du concret, d'aller vers des choses qui se construisent sur l'avenir et surtout de l'engagement et de la responsabilité. Et puis sur la partie intime, alors là peut-être qu'il y a quelque chose sur lequel il faut en discuter et débloquer à ce niveau-là. Alors est-ce que c'est lié à une maladresse de sa part, de la votre part, ou
elle dit qu'elle a des soucis de son côté d'ordre familial, c'est ça hein?
Oui, l'ordre familial, enfin voilà, elle, par rapport à ses parents, après bon, elle aime beaucoup les animaux, elle a perdu un chien il y a plusieurs mois, et à partir de là justement elle me dit tout le temps, oui mais ça reviendra, mais bon ça fait déjà pas mal de temps.
Ça fait combien de temps exactement?
Ça fait presque 6-7 mois, quoi.
Bon, vous n'avez eu aucun rapport intime?
Non, ouais.
D'accord. Oui. Il y a eu un élément déclencheur précis, je ne sais pas, peut-être une dispute ou...
Non, si, la mort, la disparition de son chien.
Moi, voilà. Je pense pas que ça soit qu'il y ait un lien lié à ça. Oui. C'est après, ce sont des blocages et elle ne se lâche pas ou elle lâche pas les choses. Si auparavant il y avait eu un véritable problème dans votre intimité de sexualité, bon, pourquoi pas. Mais si vous parlez librement et que votre sexualité auparavant fonctionnait bien, pour moi, je pense que c'est un cumul et ce sont des petits démons qui reviennent en elle et qui l'empêchent d'avancer, de débloquer. Donc pour répondre à votre question, parce que j'ai beaucoup parlé, mais j'ai peut-être pas répondu à la question, c'est de savoir est-ce que ça va durer ou pas. Je vous dis oui, pour l'instant, ça va durer. Si ça peut s'améliorer, si il y a vraiment un désir de changement et de mettre en place un processus de changement, sinon la relation risque de s'arrêter. Mais j'ai quand même un peu d'espoir et je pense que pour l'instant, on est quand même sur une continuité.
C'est le par rapport à mon divorce, ça se passe vraiment pas bien du tout. Et mes enfants refusent même de la voir ou quoi que ce soit. Bon, peut-être que ça aussi, ça joue sur le.
C'est possible. Bien sûr. Pourquoi ils refusent de la voir?
Ben parce que leur mère leur monte un peu le bourrichon et donc voilà.
Ça doit peut-être jouer. Hein.
Bien sûr,
de toute façon, c'est le mental, enfin, tout ce qui est émotionnel, tout ça, ça joue là.
Après, je dis ça, mais je ne sais pas. Hein,
il y a un tout, oui, mais ça n'empêche pas d'avoir une intimité ensemble non plus. Mais ce qui est important, c'est votre histoire et c'est de penser à vous et à votre bonheur. Et puis, ce qui est en extérieur, à un moment donné, parfois, il faut prendre des décisions pour que vous soyez heureux et que vous vivez ce que vous avez à vivre.
D'accord.
Merci Alain d'avoir été avec nous sur Sud Radio.
Merci beaucoup, merci à vous.
À bientôt.
Au revoir.
Allez, on passe maintenant à l'ange du jour, Alexandre. Quel ange on célèbre le 29 juillet ?
Eh bien, on célèbre Nitaël.
D'accord.
Et il est symbole d'écoute et d'équilibre. Cet ange est rattaché à l'élément feu, à la couleur jaune. En l'invoquant aujourd'hui, il vous aide à équilibrer vos chakras. Il développe l'humilité, la joie de vivre et la convivialité. Il est très sympa.
C'est bien.
Ah oui, Nitaël, oui. Il fait beaucoup de choses. Il est l'ange de chance pour les Sagittaires, nés entre le 17 et le 22 décembre.
On accueille Cécile. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Bienvenue Cécile, vous nous appelez d'où ?
Du sud de la France.
D'accord. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez vécu de sacrées épreuves, vous, hein ?
Oui, c'est ça.
Ouais. Racontez-nous.
Alors, je me suis mariée en 96. J'ai vécu 10 ans d'amour inconditionnel avec l'homme de ma vie, et puis qui était un ancien musicien, un peu fêtard.
Parlez bien dans votre téléphone, s'il vous plaît, Cécile.
Ah, pardon, là, c'est mieux là.
Oui, c'est mieux.
À partir de 2009-2008, j'ai commencé à me rendre compte qu'il picolait plus que qu'il buvait, excusez-moi, plus de raison. Je pense que je le voyais pas. Et voilà, donc ça s'est un peu envenimé. Notre relation s'est très envenimée. Il n'arrivait pas à s'en sortir. J'ai essayé de l'aider, Et puis en 2011, 2012, enfin en 2010 même, j'ai décidé de le quitter. Mmh. Et j'ai trouvé un nouveau travail, j'ai trouvé une maison à louer, voilà. Et puis en fait, en 2011, on m'a décelé un cancer du côlon. Donc j'ai dû rester pour me soigner, j'ai dû rester avec lui en fait, dans notre maison.
D'accord.
Et puis ça a duré un an. Et en 2014... il allait bien, il allait pas bien. Enfin, lui, il commençait vraiment à descendre. Je pense que même moi, de me voir, en fait, qu'il m'en sortait, je pense que ça l'a... Enfin, il est encore plus mal, je pense, je sais pas. Hein, mm-hmm. Et puis, en 2014, j'ai fini par le quitter. J'ai trouvé une location, j'ai trouvé un nouveau travail et tout ça. 2016, ça allait un peu mieux. Je me disais, bon, ça y est, c'est bon. Et puis, en fait, la fin du mois d'août, les gendarmes qui nous ont appelés, qui ont appelé ma fille en fait. Et bon, j'ai pris le téléphone, mais ma belle-maman n'avait plus de nouvelles de son fils depuis 10 jours. Moi, il ne parlait plus, il ne voulait plus me regarder, il ne voulait plus avoir affaire avec moi. Et les gendarmes nous ont demandé d'aller voir dans la maison, qui n'est pas loin d'où j'habite maintenant. On s'est rendu compte qu'il était décédé depuis 10 jours.
D'accord.
Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2016, il a fait très, 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 très chaud. Mmh. Donc, c'était assez catastrophique. Mmh. Et voilà.
Donc, très traumatisant, évidemment, pour vous.
Voilà, c'est ça. Alors, j'ai fait de l'EDMR un peu, mes filles aussi.
MDR,
mais longtemps après, hein, parce que pour le coup, je me disais non, ça va. Et puis, depuis, je me bats avec l'administration, en fait. Parce qu'il avait une société, on avait une société qui a été fermée pendant 9 mois. Il y a eu une enquête pour avoir les causes de sa mort. Ça s'enchaîne. Alors là, peut-être, j'ai une réponse. Ah oui, parce qu'il y a encore un autre. Enfin, ça s'enchaîne, tout s'enchaîne. J'ai réussi à fermer la société que j'ai eue en succession, en fait, en 2018. Et en fin 2018, avant, il y a une cliente qui m'a porté en justice parce qu'il y avait un objet qu'elle n'avait pas récupéré, soi-disant qui était à cette entreprise.
Et donc, puis, vous avez dû faire face à un procès.
Voilà, ça fait un procès, le Covid est arrivé par-dessus, donc tout s'est arrêté. Et
Là, le procès a eu lieu en février, le jugement a eu lieu en mai. Et en fait, on s'est aperçu. Je me suis aperçue, mon avocate s'est aperçue en voulant donner le PV d'assignation, enfin de résultat de la procédure, que la cliente était décédée depuis 2 ans.
D'accord, bon.
Donc, votre questionnement
est lequel aujourd'hui ?
Alors, mon questionnement est, est-ce que je vérifie pour de la page ? Et puis, je me rends compte aussi que je suis avec des... Enfin, j'ai eu 2-3 relations et je suis avec des hommes que j'ai l'impression que je veux sauver, en fait. Parce que j'ai pas réussi à sauver mon mari.
C'est ça. Et oui, ouais. Alexandre, c'est un peu inévitable, j'ai envie de dire, malheureusement, d'avoir ce besoin de sauver, même inconscient.
Ça fait partie
avec
de...
ce qu'elle a vécu.
Oui, ça fait partie parfois de notre mission de vie.
C'est comme on
peut parler de karma. Après, vous pouvez très bien sauver des personnes, mais ne pas pour autant vous abandonner. Et je crois qu'on peut aider l'individu, on peut aider ses proches, mais tout en faisant attention à ses connaissances. Musée et à rendre la personne autonome et non pas dépendante de vous. Donc, dans vos relations, même si vous rencontrez des personnes qui ont ce besoin d'aide, à vous, après, d'essayer de faire la part des choses entre votre relation sentimentale et puis aussi cette notion d'aide qui fait partie de vous et sur laquelle vous ne pouvez pas renier, mais qui ne doit pas prendre toute une vie ou en tous les cas toute votre énergie. Et c'est justement ça. Je pense qu'aujourd'hui, vous-même, il y a peut-être une correction à faire. Est-ce que vous avez un besoin de vous sentir un peu sauveuse de quelque chose et alors à la fois, oui, vous rencontrez des hommes qui sont en aide, mais est-ce que vous n'allez pas trop aussi dans ce besoin d'entraide ou d'aide? Et c'est à vous à contrôler ça. Et ça ne vous empêchera pas de rencontrer aussi une personne qui aura besoin de vous dans ce sens-là.
Est-ce que c'est un besoin que vous ressentez vraiment?
Non, en plus, je pense que surtout sur les deux dernières là, où c'est moi qui me donnais un peu cette mission, quoi. Eux me demandaient rien.
D'accord, oui, donc c'est ça vient de vous, c'est
ouais,
ça.
Ouais, c'est ce qu'elle dit, de sauveuse.
Voilà.
C'est ce
que
dit.
Oui, voilà.
Et c'est
ouais,
pour
ouais.
ça. Et il faut le corriger de manière. Il faut, c'est bien de le faire. Moi, je vais vous prendre un exemple personnel, mais je sais que moi, j'attire toujours les personnes qui sont en face à une difficulté, une fragilité. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous devez vous abandonner à tous ces individus. Vous pouvez apporter une partie de vous-même, mais faire en sorte qu'à un moment donné, vous avez droit à votre petit bonheur, à votre petit secret et aussi à recevoir de l'amour.
Oui,
et ça,
à recevoir.
Il faut faire la part des choses.
Ouais. Voilà, mais c'est ça qui... C'est là, je crois que je suis en manque, quoi. C'est parce que je ne reçois pas. Alors comme je ne reçois pas, je trouve encore plus qu'il y a un déséquilibre parce que je trouve ça injuste. Parce que moi, justement, je donne plus que 2 raisons ou sans qu'on me demande vraiment. Et puis, j'attends en retour, mais on me dit, mais non, moi, tu n'as pas de mission avec moi.
Quand on dit qu'on n'attend pas de retour, sincèrement, je crois que on peut faire des choses comme ça avec gracieusement et faire des choses avec amour, mais derrière, il y a quand même une notion d'un retour, que ce soit d'un merci, que ce soit d'un sourire, que ce soit d'autre chose. Il y a toujours cette notion de retour. Donc, pour moi, oui, le retour est important, mais le retour ne doit pas être important pour vous exister ou pour vous valoriser ou pour utiliser à des fins peut-être qui pourraient nuire à l'autre. Donc, essayez-vous, et ça peut être l'objet d'une thérapie, mais essayez de prendre du recul et de maîtriser tout ça, et vous verrez que vous rencontrerez quoi qu'il arrive, et je vous sens alors dans une réalisation sentimentale à venir très proche, c'est-à-dire que d'ici cette fin d'année, vous êtes dans une rencontre, mais vous rencontrerez quelqu'un qui aura aussi besoin de vous et vous saurez comment l'aider et il vous aidera aussi parce que ça sera dans un échange mutuel. Vous êtes en train d'apprendre, ne vous inquiétez pas, l'expérience de la vie est en train de vous montrer ce qu'il faut faire et ne plus faire.
Pour dans combien de temps à peu près la rencontre, Alexandre ?
D'ici la fin de l'année.
D'ici la fin de l'année. Bon,
oui, bah écoutez.
On vous le souhaite de tout cœur, Cécile. Merci beaucoup pour votre témoignage, vraiment.
Merci à vous.
À bientôt, Cécile. Allez, venez nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. On revient dans quelques minutes.
Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovane.
De retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. 0826 300 300 pour nous rejoindre. Il vous reste 10 minutes pour le faire. Emmanuel vous attend au standard. On retrouve Bérangère. Bonjour Bérangère.
Bonjour.
Bienvenue Bérangère, vous nous appelez d'où?
Je suis dans les Landes.
D'accord. Alors, vous êtes un peu dans le flou côté professionnel, votre mari et vous, c'est ça?
Oui, exactement. En fait, on a déménagé il y a 2 ans dans cette nouvelle région. Mmh. Et donc, moi, j'ai une carrière de 22 ans de secrétariat, mais que j'ai décidé d'arrêter, puisque j'ai décidé que c'était le moment peut-être de trouver un métier qui me corresponde vraiment. Mmh. Et donc, je suis actuellement en recherche d'emploi et je me forme au métier de kinésiologue.
D'accord.
Qui me passionne, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de questionnements sur est-ce que je vais pouvoir gagner ma vie avec ce métier, parce que j'ai quand même une famille. Et d'autant plus qu'en parallèle, mon mari se lance dans un projet avec un ami, il veut monter une salle d'escalade. Et il se trouve que, alors, premièrement, ils ont un peu des blocages au niveau des banques. Donc, le premier questionnement, c'est est-ce qu'ils vont réussir à avoir un prêt pour réaliser ce projet? Et puis, en deuxième instance, est-ce que ça va être une entreprise pérenne, quoi?
D'accord. Alors, votre fille aussi, il y a une question sur votre fille, je crois?
Oui, qui vient de finir la troisième. On avait choisi une orientation, mais elle n'a pas été affectée dans le bac pro qu'elle voulait réaliser. Du coup, en urgence, on a été obligé de trouver un plan B. Donc, elle s'est orientée vers un CAP commerce. Et du coup, elle a intégré une entreprise. Voilà, elle rentre vraiment dans le monde du travail. Donc, ça nous a un peu, on est content pour elle, en espérant que ça lui plaise. Mais voilà, on a un doute là-dessus. On ne sait pas trop si c'est la bonne voie, sachant qu'elle l'a un peu choisi par dépit, quoi.
C'était quoi le bac pro qu'elle voulait faire exactement?
C'est dans la gestion administrative et logistique.
D'accord. Alors, Alexandre, on vous écoute pour tout ça.
Eh oui. Il y a du boulot. Effectivement. Alors déjà, bon, c'est vrai que vous allez voir un banquier sur le projet d'escalade et de kinésiologie. Pour eux, c'est un langage qui utopique. Donc, c'est difficile et à convaincre, mais c'est tout à fait possible. Alors, de ce que je ressens, et pour votre mari, effectivement, son projet, il ne faut pas qu'il lâche, parce qu'il a véritablement du potentiel et c'est une passion. Il y a quelque chose en lui qui ressort en termes de passion, de, je dirais, d'investissement, et c'est pas d'aujourd'hui, hein. Alors peut-être qu'aujourd'hui il s'installe dans ce projet, mais c'est quelque chose, soit il en a fait beaucoup auparavant, ou il avait déjà ce projet, il y a quelque chose autour de ça.
La passion, c'est un peu son maître mot. En fait, on a fait de l'escalade, nous. Mmh. Son ami avec qui il s'installe également. Mais surtout, c'est un passionné de la vie. Il est musicien aussi à la base. Donc, toute son activité professionnelle jusqu'à aujourd'hui a tourné autour d'un intérêt, une passion. Il faut qu'il vive. Il faut qu'il soit animé par ce qu'il fait.
Donc, il a raison.
Exactement, et sûrement. Et donc, c'est pour ça que son projet peut fonctionner. Et je pense que par rapport à ce qu'il peut proposer, à mon avis, il a de la réussite, il a du potentiel, il y a quelque chose qui peut se mettre en place. Et je crois que même si il a des difficultés à trouver un financement ou un investissement pour mettre en place ce projet-là, mais il va arriver à trouver ça, et ça se fera en deux temps. C'est-à-dire soit avec deux investissements ou deux notions de temps pour avancer sur ce projet-là, mais il y a quelque chose qui se mettra en place. Et le jour où ça fonctionnera bien, et c'est, à mon avis, c'est pas très longtemps, hein, c'est à peu près dans moins d'un an où ça commencera à bien prendre forme, et bien là, il y aura quelque chose de bon et de positif. Ensuite, en ce qui vous concerne, alors sur votre activité, c'est un petit peu aléatoire. Et là, ça va rester un petit peu aléatoire. Donc, si vous avez une petite activité annexe, vous parliez de secrétariat, et bien, moi, je vous conseille de garder vraiment au coin du feu cette activité-là, parce que par moment, ça pourra vous aider,
c'est
et ça
métier,
donnera
oui,
et oui et ça donnera voilà ça donnera un plus par rapport à l'activité que de la kinésiologie dans laquelle vous vous dirigez. Et puis en ce qui concerne votre fille, alors et pardonnez-moi, j'ai oublié un petit peu la question,
qui a pris une orientation un peu par dépit.
D'accord.
Voilà, elle est en commerce.
Oui. Alors effectivement, il y a un changement qui s'annonce pour elle. Elle bifurque, mais mais on reste quand même dans l'idée du commerce, ou alors c'est peut-être marketing ou communication, vous voyez, il y a quelque chose, ouais, qui semble apparaître. Je ne sais pas si elle vous a déjà parlé de ça, mais on dirait que ces orientations-là peuvent l'intéresser ou l'amener à bifurquer. Est-ce que c'est...
D'accord. Non, elle n'a pas évoqué ce genre de choses. Et ce serait dans quel délai? Assez rapidement ou
Pas tout de suite. C'est sous une période à peu près d'un an où là, il y a on dirait que elle, peut-être qu'elle continue une saison. La saison, c'est nous. Mais une année, voilà. Mais je suis déjà en septembre. Oui. Mais enfin, voilà, oui, c'est possible.
Oui, c'est possible. Bon. Oui. Merci beaucoup, Bérangère, d'avoir été avec
vous,
nous.
À vous.
À bientôt,
Bérangère. Au revoir, merci.
Et voilà, ainsi s'achève la quatrième saison de C'est votre avenir. Bonnes vacances, mon cher Alexandre.
Mais oui, vous allez où, Trina?
Oula, je vais parcourir la France, moi. Le Nord, le Sud, voilà.
Comme le Tour de France.
Ouais, quand même pas. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de passer même cette aussi, saison à vos côtés. Merci. Et vous nous avez encore prouvé à quel point vous êtes bluffant. Donc, merci beaucoup et bonnes vacances à
merci
vous.
Merci, Yannick.
Bonnes vacances également à vous qui nous écoutez chaque jour sur Sud Radio. Merci du fond du cœur pour votre fidélité. Et rendez-vous le 22 août à 16h pour commencer une cinquième saison ensemble. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bonsoir.
Bonsoir, bonnes vacances par avance.
Merci.
Voilà,
merci.
On se retrouvera à la rentrée. Profitez bien. Les vraies voix qui continuent tout l'été en juillet et en août également, et des débats ce soir jusqu'à 19h avec Caroline Pilastre, Luc, Éric Krief et Laurent Saillé qui va nous rejoindre. Plusieurs débats, l'inflation qui grimpe encore et encore, inflation qui accélère à 6,1% sur l'année. Est-ce que vous allez vous restreindre après les vacances d'été? Évidemment, c'est la question qu'on vous pose ce soir. Vous votez sur les réseaux sociaux. Et puis notre grand débat à 18h30, Total qui a plus que doublé son bénéfice au deuxième trimestre, 5,7 milliards de dollars. Et voilà le débat relancé. Est-ce qu'il faut taxer les super profits ou alors les bénéfices exceptionnels? Là encore, vous votez, puis surtout, vous nous appelez pour en débattre. 0826 300 300, à tout de suite pour les vraies voix.